Avec le secours du Seigneur, la considération du sujet que nous avons débuté hier soir, à savoir le témoignage de Dieu rendu de diverses manières, et lisons tout premièrement deux courts versets dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, puis au chapitre 1er. Chapitre 17, le verset 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et au chapitre 1er, le verset 18, personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Quelle grâce, quelle condescendance de la part de Dieu et quel sujet de reconnaissance pour nos cœurs d'être mis au bénéfice de cette connaissance que Dieu donne de lui-même. À des créatures éloignées, telles que nous étions dans la fange du péché, il fait connaître son cœur. Et c'est bien là le témoignage de Dieu, à savoir qu'il se révèle. Nous avons pu constater hier que dans sa bonté fidèle, Dieu se fait connaître au cours des économies et des siècles de manière diversifiée, employant des instruments, des moyens, selon sa grâce souveraine et selon son propos, pour révéler son cœur, pour faire connaître sa nature, son propos, ses pensées. C'est bien là le témoignage de Dieu, à savoir de faire connaître quel il est, quel est son dessein à l'égard, premièrement, de son Fils bien-aimé et à l'égard de l'homme. Et nous avons pu relever, pour faciliter la mémorisation, il se révèle en rendant témoignage par la création, par la parole de Dieu. Nous nous sommes arrêtés quelque peu aussi sur le témoignage rendu par des hommes de Dieu dans l'ancienne économie, et nous arrivions au témoignage à nul autre semblable rendu par le Seigneur, le témoin fidèle. Nous pourrons par la suite, si le Seigneur nous l'accorde, considérer le témoignage rendu par Dieu lui-même à l'égard de son Fils bien-aimé, le témoignage rendu par le Saint-Esprit est celui qu'il confie dans sa grâce à des porteurs pendant l'économie présente, aux rachetés, aux croyants, à son assemblée, son Église, mais en évoquant aussi peut-être quelques mots du témoignage futur qui sera rendu d'une manière combien fidèle et à quel prix par ceux qui constitueront après l'enlèvement des saints ce résidu sur la terre, dans l'attente de son apparition en gloire. Sans revenir sur ce qui nous a occupé hier, nous citons simplement que la création, comme en témoignent les psaumes principalement et d'autres passages, constitue un témoignage qui met en évidence la puissance créatrice, la dignité, la majesté, l'autorité, la sagesse de Dieu. Témoignage muet, mais comme le dit le psalmiste, sa voix est entendue. Elle est appelée, ce témoignage est appelé à rendre l'homme attentif, et ce témoignage à lui seul le rend, comme dit Paul écrivant aux Romains, inexcusable. C'est dans une bien faible mesure que nous pouvons considérer la grandeur des choses qu'il a appelées à l'existence. Et empruntant le langage de l'Ecclésiaste, nous pouvons dire nous aussi que nous ne pouvons comprendre du commencement jusqu'à la fin la grandeur de l'œuvre qu'il a faite. Nous avons la certitude ou la confirmation du témoignage rendu par la création, ne serait-ce que par les enseignements donnés par le Seigneur lui-même, par Dieu lui-même, qui fait appel d'une manière si frappante aux éléments de la création pour enseigner l'homme. Il l'a fait à l'égard de Job, par exemple. Combien d'éléments sont tirés de la création pour frapper la conscience de cet homme, Job. dans le langage des paraboles et les enseignements du Seigneur dans le cours de sa vie, ici-bas, combien de fois il a fait appel à la création pour nous parler et démontrant par cela l'éloquence de ce langage et de ce témoignage muet. La parole de Dieu, qui elle-même est appelée maintes fois dans l'Ancien Testament, surtout les témoignages ou le témoignage, c'est sous ce titre-là que la parole de Dieu a été donnée à Moïse sur la montagne, et c'est dans l'arche type de Christ que le témoignage prend place. C'est en effet en lui seul que sa loi était sauvegardée. Tournant, se tournant en descendant de la montagne, il met les tables de la loi dans l'arche, et elles sont là, dit-il. En celui en figure qui pourra dire plus tard par la voix prophétique, ta loi est au-dedans de mes entrailles. Nous nous sommes également quelque peu arrêtés en citant des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont rendu un témoignage combien précieux et éloquent sous des aspects, des caractères très différents depuis le début de l'histoire de l'homme, puisque le témoignage de Dieu est rendu tout au cours de cette longue période de l'histoire de l'humanité où l'homme est responsable, en évoquant aussi bien le témoignage d'un Abel, d'un Enoch et de tant d'autres hommes de Dieu qui ont parlé. Les prophètes ont parlé, qui sauraient mettre en doute la valeur et la précision d'un témoignage donné en son temps par le prophète Ésaïe, si nous lisons ne serait-ce que le 53e chapitre de son livre qui nous est, grâce à Dieu, familier. Nous avons pu constater également quelques caractères du témoignage qui du reste se retrouvent dans ses expressions au cours des diverses économies, mais à la fin de Malachie, les caractères de ceux qui, dans un temps combien sombre, constituent pour l'Éternel son trésor particulier parce qu'ils pensent à son nom, parce qu'ils parlent l'un à l'autre de celui qui est cher à leurs affections. Avant de poursuivre, nous aimerions citer dans ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean le témoignage rendu par l'un de ces hommes de Dieu de l'ancienne économie, à savoir Jean le baptiseur. On peut dire au terme de cette période si longue, mais qui rend un témoignage d'un caractère tout particulier, puisque c'est le seul prophète, le plus grand des prophètes, peut-il être dit, mais le seul qui a vu celui qu'il annonçait. Et nous aimerions simplement relever sept caractères du témoignage que Jean le baptiseur rend au sujet du Seigneur. Dans ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous lisons au verset 7, ou déjà au verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. » Ce premier témoignage rendu par le précurseur du Seigneur, appelé sur la scène pour préparer le chemin du Messie, afin que le peuple, moyennant la repentance, soit dans une disposition qui convienne à la venue de celui qui avait fait l'objet de l'annonce des prophètes, rend premièrement témoignage à la nature de celui qui va venir, parlant de lui comme étant la lumière. Jean le baptiseur était une lampe, nous est-il dit un peu plus loin, ardente et brillante, mais il n'était pas la source de la lumière. Et la grandeur de ce témoin qu'est Jean le baptiseur, on peut dire, éclate en raison de son humilité. Il évoque donc la lumière, c'est bien l'un des caractères essentiels de Dieu. Dieu est lumière, Dieu est amour. Et dans une scène ténébreuse, qui était celle dans laquelle apparaît ce précurseur, qui s'adresse à un peuple caractérisé par la stérilité et la sourdité, en raison de quoi il doit crier dans le désert, il peut lui placer ce peuple devant le Seigneur lui-même qui va apparaître, le présentant selon sa nature, la lumière. Dans le deuxième témoignage rendu par ce serviteur, un peu plus loin au verset 15, nous lisons « Jean rend témoignage de lui et a crié disant, « C'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi, car de sa plénitude, nous tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Témoignage rendu à la prééminence, à la primauté, à la préexistence, à l'excellence de celui duquel il annonce le chemin. Celui qui était avant lui, celui duquel, dira-t-il, il n'est pas digne de délier la courroie des sandales. Il parle donc de sa grandeur, de son éternité, et de ce que ce Seigneur qui va venir va apporter, la grâce et la vérité. Dans un équilibre divin qui nous fait toujours défaut, dans la personne du Seigneur annoncé, il y a à poids égal, comme toutes les vertus divines, la grâce et la vérité. La grâce que le Seigneur a démontrée n'a pas dépouillé la vérité de son autorité, et la vérité qu'il a annoncée n'a pas terni la douceur et la fraîcheur de la grâce. Et celui qui l'annonce, devant lequel il s'efface du reste dans les témoignages suivants encore, il l'annonce comme étant celui qui est avant lui, car il est de toute éternité, il était avant moi. Et il évoque déjà ce que la parole plus loin pourra nous déclarer à l'égard du Seigneur, c'est qu'il est la plénitude, il est la plénitude de la manifestation des caractères divins. Un troisième témoignage au verset 19e, c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il le confessa et ne le nia pas et confessa « Moi, je ne le suis pas, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc es-tu, Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. » Témoignage rendu à la supériorité du Seigneur. Celui, comme nous l'avons chanté, à qui nul n'est semblable, qui ne peut être comparé à aucun autre témoin, le seul du reste qui porte ce titre de témoin fidèle. C'est bien l'un des témoignages rendus par Jean le Baptiseur. Pour arriver au quatrième témoignage, objet des versets 29 et 30, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et lui dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce témoignage rendu ici, on pourrait dire au centre de ce septuple témoignage, est en rapport avec son œuvre. C'est bien le but de sa venue. C'est l'objet du propos éternel de Dieu que le Seigneur va réaliser par sa personne et par son œuvre. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évocation de la perfection de la victime, comme aussi de la perfection de l'œuvre. Deux aspects qui sont comptés au nombre des multiples doubles aspects liés à la personne et à l'œuvre de Christ. C'est pour cela qu'il est venu, pour régler la question du péché. Car il y a aussi le problème de nos péchés. Mais nous voyons qu'il est présenté dans ce témoignage rendu par Jean le Baptiseur comme étant celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui se substituera au type institué pour Israël dans l'agneau pascal, mais le seul agneau sans défaut et sans tâche qui, par son œuvre, peut régler la question du péché. L'œuvre est accomplie, le péché n'est pas encore ôté du monde, nous sommes là pour attester de la présence du péché encore active dans ce monde, néanmoins la question est réglée devant Dieu. Et le jour viendra lorsque tous les résultats acquis de l'œuvre de Christ seront glorieusement et éternellement produits, où le péché alors sera ôté du monde. Et c'est en rapport avec le résultat d'une telle œuvre que Jean le Baptiseur peut donner son quatrième témoignage. Le cinquième, au verset 32 et suivant, Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Témoignage en rapport avec la personne du Seigneur sous le titre de Fils de Dieu, lié au baptême dans le Jourdain, ce baptême unique qui ne doit en aucun cas être confondu avec le baptême de la mort du Seigneur, duquel il peut dire qu'il a à être baptisé d'un baptême, et combien dit-il, je suis à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il ne doit pas être confondu non plus avec le seul baptême d'un seul esprit, d'un Corinthiens 12, pour la constitution du corps de Christ. Il ne doit pas être confondu non plus avec le baptême chrétien par lequel une profession chrétienne est déclarée par celui qui est baptisé. Ce sont des baptêmes très distincts. Ici, nous avons un baptême appartenant encore à l'économie légale dans le Jourdain, et nous avons le Seigneur qui, lors de ce baptême remontant des eaux, est l'objet de cette descente sous la forme corporelle d'une colombe du Saint-Esprit qui vient demeurer sur lui. Ce n'est pas la même sous la même forme que le Saint-Esprit descendra sur les disciples rassemblés au jour de la Pentecôte, nous le savons. Et c'est celui duquel Jean le baptiseur avait été averti que lorsqu'il verrait le Saint-Esprit descendre sur lui, celui-ci n'est pas moins que le Fils de Dieu. Quel témoignage au rendu! Le sixième témoignage se trouve au verset suivant. Lorsque le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples regardant Jésus qui marchait. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler, ils suivirent Jésus, et Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient leur dit, que cherchez-vous? Et il lui dit, Rabbi, ce qui est interprété signifie maître, où demeures-tu? Et il leur dit, venez et voyez. Et ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Jean présente à nouveau le Seigneur, le voyant marcher. C'est le modèle. Témoignage rendu au parfait modèle, celui qui marche, le seul et premier homme qui sur cette terre marche à la pleine satisfaction de celui qui l'a envoyé. Voyant le Seigneur marcher, Jean peut dire, voilà l'anneau de Dieu. Il le présente non pas directement comme précédemment en rapport avec son œuvre, mais en rapport avec sa personne. Voilà l'agneau de Dieu. Et c'est le modèle que nous sommes appelés à suivre, comme l'ont fait les disciples, qui le voyant marcher et l'entendant parler, le suivent. Nous n'avons pas d'autre formation spirituelle pour trouver le lieu de sa présence. Fixer les yeux sur lui, le suivre et l'entendre, être attentif à sa voix, et le suivant, nous arriverons nécessairement au lieu de sa demeure, dans la présence même du Seigneur. Et c'est le privilège qu'ont goûté ses disciples, qui ont demeuré avec lui ce jour-là. C'était à la dixième heure, l'heure qui fait suite aux trois heures de l'expiation. Un septième témoignage est rendu au chapitre 3, lorsque nous lisons au verset 29, celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Comme en témoignent les versets précédents, c'est donc également un témoignage de Jean le Baptiseur. En rapport avec un autre titre, ce n'est plus ici l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, ce n'est plus le modèle, c'est l'époux. Témoignage rendu par Jean le Baptiseur sous ce titre-là, il le présente comme étant l'époux. Et combien il est beau de voir l'humilité d'un tel témoin, ce dernier sur la scène de l'économie de la loi, qui peut parler du Seigneur en s'effaçant lui-même, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, et qui peut parler de la joie qui est la part de l'époux. Mais la sienne, celle de Jean le Baptiseur, elle est complète. Certes, ce n'est pas la plus élevée. Certes, la joie et la position de Jean le Baptiseur n'est pas la plus intime. Il ne fait pas partie de l'épouse. Mais la position que le Seigneur lui donne suffit pour lui. Elle est un motif de louange et de reconnaissance. Il est satisfait. Quel témoignage complet, merveilleux, éloquent, digne de méditation que ce dernier témoignage rendu à la personne du Seigneur dans cette économie qui va bientôt trouver sa fin. Dans l'Évangile selon Luc, si nous en venons au témoignage rendu par le Seigneur lui-même, nous citons quelques passages dans l'Évangile ou le premier chapitre de l'Évangile selon Luc pour mettre simplement en évidence combien les témoins les plus merveilleux, peut-être les plus durables, voire encore les plus complets, dont la parole nous entretient, disparaissent devant le témoin fidèle qui va apparaître sur la scène. On peut dire que devant le lever du soleil, les étoiles les plus brillantes disparaissent et ne se voient plus. Et cela apparaît déjà dans ce premier chapitre ou ces premières parties de l'Évangile du Fils de l'homme où nous est déclaré avec des détails particuliers la venue du Seigneur comme homme sur la terre. Et nous pouvons y relever seulement quelques points qui mettent en évidence la supériorité du témoignage rendu à l'égard du Seigneur dans les déclarations qui nous sont données par rapport à ce qui avait été dit en vue de la venue de Jean le Baptiseur. En rapport avec Jean le Baptiseur au verset 14 du premier chapitre, il peut être dit qu'il sera un sujet de joie et d'allégresse. En effet, la venue de Jean le Baptiseur était annoncée, nous en connaissons les signes précurseurs, mais il l'a dit à l'intention de Zacharie qu'il sera pour lui un sujet de joie et d'allégresse. Si nous nous reportons au verset 32 du même livre, il peut nous être dit qu'il sera un grand sujet de joie. C'est plutôt chapitre 2. Chapitre 2 au verset 10. Je vous annonce un grand sujet de joie. Un sujet de joie, c'est la venue de Jean le Baptiseur. Un grand sujet de joie, c'est l'annonce de la venue du Seigneur par l'ange qui s'adresse donc au berger. Et il peut être ajouté ces paroles du verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. » Un second point qui marque également cette distance qu'il y a toujours entre la créature et le Seigneur, c'est ce que nous lisons au verset 66 du chapitre 1er. Tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Au chapitre 2 et au verset 40, nous lisons à la fin « L'enfant, c'est le Seigneur, croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. » La main du Seigneur était avec Jean le Baptiseur. Quant au Seigneur, la faveur de Dieu est sur lui. Il est couvert de cette faveur divine. Quelle distance! Un troisième aspect, nous l'avons au verset 15 du chapitre 1er, à la suite de ce que nous avons lu, il sera grand devant le Seigneur. Au verset 32, quand il s'agit du Seigneur lui-même, il sera grand. Certes, Jean le Baptiseur a été grand devant le Seigneur, mais il marche devant le Seigneur. Il ne peut pas être dit quelque chose de semblable à l'égard du Seigneur. Il est le Seigneur, et seules les paroles « il sera grand » lui sont attribués. Lorsqu'il est parlé de Jean le baptiseur au verset 15 du premier chapitre également, il nous a dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Mais quand il s'agit du Seigneur, nous avons plus que cela. Il a été conçu du Saint-Esprit, il a été oint et scellé du Saint-Esprit. C'est la parfaite offrande de gâteau, pétri à l'huile et ointe d'huile. Nous pourrions multiplier les différences, elles sont nombreuses. On a déjà cité celle de la lampe, qui est brillante et ardente en rapport avec Jean le baptiseur, mais le Seigneur peut dire de lui-même, « Je suis la lumière ». Dans la création, nous avons un fait que nous pouvons signaler, puisque nous avons évoqué le témoignage de la création. Dans le cours des 6 jours qui sont l'objet du premier chapitre de la parole, nous avons la lumière au début. Et la lumière a été séparée des ténèbres, et la lumière a été. Mais l'astre n'apparaît qu'au 4e jour. Le grand luminaire, pour illuminer les œuvres faites, la source de lumière et de vie et de chaleur n'apparaît qu'au 4e jour. En effet, ne pouvons-nous pas dire que pendant ces 4 millénaires qui ont précédé la venue du Seigneur, la lumière avait été donnée. Dieu avait fait connaître sa pensée, son propos, il s'était révélé dans une mesure, celle que permettait la loi, mais il y avait de la lumière. Mais maintenant, l'astre est présent. La source de la lumière est là. Et le Seigneur est l'objet des prophéties, combien abondantes dans la parole, et le Seigneur constitue donc ce témoignage le plus excellent, le témoignage parfait, le témoignage sans défaillance. Et nous pouvons dire que dans le Seigneur, nous avons en lui l'objet du témoignage, et nous avons le témoignage lui-même. Puisque les autres canaux, en quelque sorte, ou moyens que la bonté divine emploie, ont aussi pour objet de témoigner du Seigneur lui-même. Que nous est-il dit du Seigneur? Il est annoncé, nous l'avons lu dans ces chapitres du début de Luc, mais lorsque le Seigneur est présenté par Dieu lui-même, il est annoncé comme étant ou nous est présenté comme étant l'empreinte de sa substance et le resplendissement de sa gloire. Le témoignage rendu par le Seigneur, qui est d'une excellence incomparable, nous le comprenons bien, et qu'on peut être considéré sous 2 aspects. Le témoignage relatif à sa personne et le témoignage qui se dégage de sa mission, de son ministère. Et quant à sa personne, des déclarations les plus éloquentes et les plus merveilleuses nous sont données par la parole, par Dieu lui-même, au sujet de sa personne. Nous aurons peut-être l'occasion d'en citer quelques-unes en rapport avec le témoignage de Dieu relatif à son Fils. Il est l'empreinte de sa substance, le resplendissement de sa gloire. En lui, nous est-il dit, toute la plénitude de la déité s'est plu à habiter. Ce qui signifie que nous avons dans la personne de Christ, Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est l'homme Dieu. L'empreinte de sa substance, expression qui est du reste bien particulière, est le resplendissement de sa gloire. La gloire de Dieu, nous l'avons déjà vu ici, est liée à la réalisation de la maison de Dieu dans bien des conditions, dans bien des circonstances et au cours des économies. La gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle, elle est entrée dans le temple de Salomon. La gloire de Dieu est présente dans l'assemblée. Cette même gloire remplira le temple de la période millénaire et que dire de la gloire qui illumine la cité sainte en Apocalypse 21. Mais d'aucune de ces réalisations, il nous est dit qu'elle est resplendissante. Et le témoignage rendu par le Seigneur à Dieu lui-même fait que la gloire de Dieu en lui a été resplendissante. L'homme ne l'a pas discernée, il n'aurait du reste pas pu la supporter, il n'a même pas accepté et compris sa gloire morale. Il n'en demeure pas moins que pour le regard de la foi, il est accordé de discerner cette grandeur, cette beauté, celui de quel la parole peut dire qu'il est plus beau que les fils des hommes. Il est l'incomparable. Il est cet arbre au milieu, ce pommier au milieu des arbres de la forêt. Il est ce porte-bannière entre 10 000. Il est celui à qui nul ne peut être comparé. Il est, comme le dit le psaume 45 et déjà cité, plus beau, et non pas le plus beau, mais plus beau que les fils des hommes. Et il a rendu la gloire de Dieu resplendissante. Des expressions liées à la personne de Christ qui lui sont exclusives. Il en est de même quant à l'habitation de la plénitude de la déité. Si l'habitation de Dieu a été réalisée avec l'homme, c'est une condescendance, c'est une grâce digne de louange et de reconnaissance. Mais lorsque Dieu habite dans l'homme Christ Jésus, c'est un plaisir. La plénitude de la déité s'est plu. Et ce n'est pas moins de 2 fois que l'Épître aux Colossiens nous cite cette réalité glorieuse, à savoir que la plénitude des caractères et de l'essence divine ont élu domicile dans celui qui était l'empreinte de la substance même de Dieu. Ce qui veut nous dire que nous avons Dieu sans aucune restriction dans la personne de Christ. Lui-même a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et la venue du Seigneur sur la terre a pour effet d'ouvrir le cœur de Dieu. Il a révélé le Père. Et nous avons en Christ, en considérant Christ, nous avons Dieu pleinement. La plénitude de la déité, c'est plus expression prononcée au passé, puisqu'elle se rapporte à son chemin d'homme sur la terre. Elle est répétée dans le second chapitre de cet épître aux Colossiens au présent, en lui habite la plénitude corporellement. Elle est au présent car Dieu, le Seigneur, demeure un homme, il l'est pour l'éternité, et cette plénitude continue à habiter en lui, et l'adjonction du terme corporellement précise que le Seigneur demeure un homme dans le ciel, un homme glorifié. Et c'est comme tel que le Seigneur a pu rendre un témoignage à nul autre semblable. Il a rendu témoignage en révélant le Père. Nous le répétons, il a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a rendu témoignage à la vérité. Il est le témoin fidèle et véritable. Il est fidèle quant à la mesure et la constance qu'il a donnée à un témoignage sans aucune défaillance. Il est véritable dans une parfaite et une divine authenticité. Et combien il est frappant de constater que ces 2 titres que le Seigneur s'est acquis et qu'il a emporté dans le ciel, sont mentionnés dans l'Apocalypse comme étant celui qui parle à Jean et encadrent toute l'histoire de l'Église. Cette Église à laquelle les pensées de Dieu ont été communiquées, mais qui nous est déployée dans l'évolution du cours des siècles, sous la forme de ces 7 messages adressés aux 7 assemblées d'Asie et qui nous démontrent, comme tout ce qui était confié à la responsabilité de l'homme, qu'il est en dessous de la mission à laquelle la bonté de Dieu le convie, cet ensemble de cette plénitude des tableaux des 7 églises des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse est encadré par l'évocation du Seigneur comme étant le témoin fidèle. Et dans la dernière épître, à Laodicée, il est le témoin fidèle et véritable. Mention qui, en quelque sorte, encadre toute l'histoire de l'Église sur la terre, qui, elle, s'est démontrée si souvent infidèle. Il rend témoignage à la vérité. Il l'a fait du reste en face même de Ponce Pilate, lorsqu'il peut lui dire « qu'est-ce que la vérité ?» Témoignage rendu à la vérité. Témoignage rendu devant ce monde qui est marqué par l'absence de vérité, puisqu'il est conduit par celui qui est le menteur dès le commencement. Et on peut dire que le témoignage, du reste c'est une constatation d'ordre général, il est rendu dans une scène où tout lui est contraire. Du reste, la raison même d'un témoin, c'est pour faire la démarcation par rapport à son environnement. Si nous avons un témoin pour nous guider sur la route, c'est précisément pour nous éviter de nous égarer, car ce qui est en dehors de ce chemin tracé est un chemin d'égarement. Le témoin est là pour contraster avec son environnement. Et le témoin fidèle n'a-t-il pas contrasté en tout point avec la scène dans laquelle son témoignage a été rendu? Celui qui était la vérité se trouve confronté à l'absence de vérité, au mensonge. Celui qui a porté la paix entre dans un monde où il n'y a que violence et guerre. Celui qui était saint, sans péché, se trouve dans un monde marqué par la souillure et par le péché et ses conséquences. Celui qui était débonnaire et humble de cœur est dans une scène marquée par l'inimitié et par l'orgueil. Tous les caractères du vrai témoin sont en contraste avec le monde dans lequel ce témoignage est rendu. Et si ce fut le cas d'une manière parfaite, bien sûr, dans le témoignage rendu par le Seigneur, ne devrait-il pas y en avoir une manifestation de même nature, si ce n'est pas de même mesure, mais de même nature dans le témoignage que par la grâce de Dieu nous sommes appelés à rendre ici-bas? C'est dans la mesure où il y a précisément séparation entre le témoin et ce qui l'entoure que son témoignage ne sera que plus brillant. A-t-il été reconnu le témoignage du Seigneur? Nous savons bien qu'il n'a pas été compris, il n'a pas été reçu, il a été l'objet du mépris, il a été l'objet de la réjection, l'objet de celui duquel, à l'intention duquel, le peuple s'est uni pour dire « Haute, haute, crucifie-le ». Et nous pouvons dire que c'est en raison de son propre témoignage que le Seigneur a scellé sa condamnation à mort. N'oublions pas qu'un témoin ne rendra jamais le croyant populaire. Le témoin l'expose à la souffrance, à l'isolement. Et le témoin fidèle en est l'expression la plus marquante, bien sûr, et la plus parfaite. Mais nous pouvons peut-être nous arrêter quelques minutes sur le témoignage rendu par Dieu lui-même. Citons encore cette pensée que le témoignage du Seigneur rendu sur la terre a trouvé son expression la plus élevée, la plus parfaite et digne d'adoration lorsque le Seigneur a été sur la croix. Et sous cet aspect-là, le témoignage rendu par le Seigneur se rapporte d'une part à l'amour et à la grâce et d'autre part à la justice et à la sainteté. Y a-t-il un amour plus grand que celui qui pouvait conduire le Seigneur, le témoin fidèle, sur la croix? Y a-t-il une justice plus inflexible que celle d'un Dieu duquel il peut nous être dit qu'il l'a soumise à la souffrance? Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Et dans cette montagne des conseils de Dieu, ce Morija de jadis, cette terre d'Orlande d'autrefois, ce mont Calvaire, où le Seigneur est fait péché, nous avons d'une part un témoignage rendu au plus grand amour qui puisse être exprimé de la part du Seigneur à l'égard de son Dieu et Père, et nous pouvons dire que l'amour de Christ pour son Dieu et Père sur la croix s'exprime d'une manière et dans une mesure que Dieu seul peut comprendre et apprécier pleinement. Néanmoins, la faible mesure qui nous est accordée d'en percevoir est suffisante pour remplir nos cœurs de louanges et d'adoration. Amour pour son Dieu et Père, car n'oublions pas qu'avant toute chose, Christ s'est offert à Dieu. Si nous occupons une place dans le conseil éternel de Dieu, nous ne sommes pas la première pensée de Dieu. La première pensée de Dieu est pour son Fils, la première pensée de Christ est pour son Père. Dieu voulait faire des noces pour son Fils, nous l'avons déjà évoqué. C'était sa première pensée. Il l'avait dit en création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le Seigneur voulait appeler et amener sur la scène ce que le cœur du Père cherchait des adorateurs. Et par la grâce de Dieu, nous sommes les bénéficiaires de cette pensée, de cette double pensée divine, le propos de Dieu à l'égard de son Fils et le désir du cœur du Fils à l'égard de son Dieu et Père. Quel témoignage rendu à l'amour divin ? Y en a-t-il un plus excellent ? Mais pour qu'il puisse trouver sa réalisation, il fallait que la sainteté consumante de Dieu s'abatte sur son Fils bien-aimé dans toute sa rigueur, afin que le chemin de la grâce soit ouvert dans toute sa gloire. C'est l'aspect du témoignage rendu à l'égard de la sainteté et de la justice de Dieu, car il convenait pour Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour qui sont toutes choses, qu'amenant des fils à la gloire, il consomma le chef de notre salut par des souffrances. Dieu se devait à lui-même, à sa justice et à sa sainteté, qu'au moment même où son Fils bien-aimé accomplit son œuvre, il doive l'abandonner. Et le silence de la part de Dieu au cri douloureux de son Fils bien-aimé sur la croix est la réponse qui traduit la sainteté de Dieu. Je vous exprime entre autres le psaume 22, quand le Seigneur, par l'esprit prophétique, peut poser la question « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La réponse se trouve sitôt après, car tu es saint. La sainteté de Dieu impose, si nous pouvons, osons employer cette expression, à un Dieu saint d'abandonner celui qui accomplit à ce moment même l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Trouvons-nous un témoignage, un témoin plus excellent? C'est bien celui que nous pouvons évoquer et que la parole souligne comme étant ce témoin fidèle, un témoin sans défaillance, un témoignage qui n'a connu aucune altération. Notre témoignage est si faible, il est si inconstant, il est si interrompu par des défaillances, mais quant à lui, c'est le témoin fidèle. Et Dieu se plaît à témoigner à l'égard de son Fils. Il a témoigné, on peut dire, sous diverses formes et dans diverses circonstances, tout au long de l'humanité de Christ. Lisons un passage dans l'Épître de Jean encore, chapitre 3, au verset 35. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Au chapitre 5, au verset 37, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Au chapitre 8, au verset 13e. Et les pharisiens donc lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus répondit et leur dit, quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Nous avons évoqué cette pensée que Christ est le fil conducteur des Écritures, la première pensée de Dieu. Et l'Écriture tout entière, et l'Ancien Testament par ses types, par ses figures, par l'évocation des prophètes, se plaît à placer devant le cœur du lecteur la place qu'occupe le Seigneur dans les pensées de Dieu. N'oublions pas que Dieu se plaît à nous entretenir de celui qui fait de toute éternité les délices de son cœur. Et par cela nous invite à trouver nous aussi nos délices en lui. Le Père aime le Fils. Quelle déclaration simple, quelle déclaration élevée, Quelle déclaration puissante! L'amour du Père qui a son Fils pour objet. Et il nous semble que cette réalité glorieuse est traduite d'une manière touchante, puisque dans le livre de la Genèse, la première fois que nous trouvons le verbe « aimer », c'est en rapport avec l'amour d'Abraham pour son fils. Prends ton fils, celui que tu aimes, ce fils unique, celui que tu aimes. C'est la première fois dans l'Écriture que nous trouvons le verbe « aimer », l'amour du Père pour le Fils. Et la seconde mention du verbe « aimer » dans ce même livre de la Genèse, nous le savons bien, deux chapitres plus loin, chapitre 24, c'est l'amour du fils pour son épouse. Lorsque Rebecca entre dans la tente d'Isaac, et à l'égard de laquelle il peut dire qu'il l'aima. Amour du père pour le fils, amour du fils pour son épouse. Les deux premières mentions du verbe aimer dans l'Écriture. Le père aime le fils. Et c'est bien la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous entretient de ce Fils, dans tout le cours des Écritures. Et déjà dans la Genèse, sitôt après la chute de l'homme, lorsque la promesse est faite et la sentence est prononcée consécutive au péché, Dieu se plaît à nous déclarer que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. De qui s'agit-il si ce n'est de ce Fils qui viendra sur la scène de ce monde de péché pour écraser la tête du serpent ancien? Lorsqu'il revêt les épaules du couple coupable chassé loin du jardin de vêtements de peau, de qui Dieu nous parle-t-il? N'avons-nous pas une évocation combien claire pour nous de ce vêtement qu'est celui de Christ lui-même, duquel par grâce et par la foi nous sommes revêtus, comme le fut plus tard l'enfant prodigue, revêtu de Christ. Il nous entretient de Christ et de son œuvre. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous avons ces innombrables évocations, soit typiques, soit prophétiques, en rapport avec la place qu'occupe la personne du Seigneur dans l'Écriture et dans le cœur même de Dieu. Dieu rend témoignage de lui. Et quel témoignage rendu par Dieu lui-même au sujet de son Fils. Si témoignage a été rendu par ceux qui ont précédé la venue du Seigneur sur la terre, si un témoignage combien complet et merveilleux a été rendu par Jean le baptiseur, là encore on peut dire que tout cela disparaît devant le témoignage que Dieu rend de son Fils bien-aimé. À la naissance, et même nous pourrions parler des psaumes, nous pourrions parler d'Ésaïe 9, nous pourrions parler d'Ésaïe 53, où Dieu nous entretient dans cet évangile en miniature, comme on l'a dit, de ce chapitre central de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, de ce que Dieu se propose pour son Fils en raison de la victoire qu'il va remporter par son œuvre. Il partagera le butin avec l'effort. À la naissance du Seigneur, quel témoignage rendu! Dieu annonce la venue de son Fils. Et nous connaissons les titres que Dieu attribue à son Fils bien-aimé avant sa naissance, lorsqu'il l'annoncera à Marie par Gabriel qui s'adresse à cette sainte femme. Nous avons le témoignage rendu par Dieu à la naissance du Seigneur. Nous avons déjà lu le passage dans l'Évangile selon Luc par le message de l'ange au berger, en rapport avec la joie que doit procurer dans le ciel et sur la terre, où il vient pour la paix, paix dans les hommes, la venue de ce témoin fidèle, la venue de celui qui va accomplir le propos, le conseil éternel de Dieu. Et le témoignage rendu par les mages. Nous savons bien qu'Israël n'attendait pas plus son Messie que la chrétienté professante n'attend aujourd'hui la venue du Seigneur. Ce peuple, comme cette chrétienté d'aujourd'hui, indifférente, qui n'a souvent que la profession sans avoir la réalité de la vie, est ignorante volontairement et elle est insensible à la prochaine venue du Seigneur. Qui s'est intéressé à la venue du Seigneur lorsque cet enfant est né dans la crèche? Celui pour qui son peuple n'a accordé aucune place, aucun accueil. Ce sont des rois étrangers, des rois mages. Mais Dieu voulait que la venue de son Fils soit honorée. Elle l'a été. Et au suprême abaissement de la venue du Seigneur sur la terre, de ce petit enfant couché dans la crèche, nous voyons alors l'arrivée de ces rois qui vont lui faire trois présents, nous le savons. Ils lui ont offert de l'encens, vont lire le passage, il vaut la peine de le lire, au début de Matthieu, au verset 11 du premier chapitre de Matthieu, au milieu du verset, « Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. » Par ces trois présents, Dieu qui sauvegarde la gloire de son Fils, fait qu'il lui est offert de l'or, ce qui est donné à un roi. Il lui est offert de l'encens, ce qui est consumé devant un Dieu. Et il lui est offert de la myrrhe, qui témoigne qu'il sera l'homme de douleur, celui qui va souffrir. C'est bien ce dont les prophètes avaient rendu témoignage en leur temps, en annonçant les souffrances qui seraient sa part et les gloires qui suivraient. Témoignage rendu par ces hommes. Combien sont nombreux aussi les témoignages dans le cours de l'Écriture que Dieu se plaît à donner par son esprit dans la parole et qui nous présente la gloire du chemin de l'homme parfait qui, descendant du ciel, passe par la terre et remontera au ciel. Comme cette chaîne divine qui part du ciel, qui passe sur la terre et qui est réintroduite dans la gloire. C'est bien ce que nous décrit dans ces diverses évocations ce mystère de la piété dans Timothée 3:16. C'est bien ce que le Seigneur lui-même peut dire en Jean 16, qu'il est venu du Père, qu'il est venu sur la terre, mais qu'ayant accompli son œuvre, il s'en va de nouveau au Père. C'est bien ce que traduit aussi l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 9, où nous soulignons dans quelques versets ces quatre verbes si expressifs, « Mais Christ étant venu », qui donnera un point final à tout ce que les types, tout ce qui avait été institué sous la loi, pouvait dégager comme pensée en anticipation, mais qui en sera lui seul l'accomplissement, Christ est venu. Il est venu, pourquoi? Pour s'offrir, deuxième verbe, pour s'offrir à qui? À Dieu, par l'Esprit éternel. Et quel est le résultat de cette offrande? Il a obtenu. Il a obtenu, le prix a été payé. Et l'Écriture en rend témoignage, ce prix magnifique a été payé, il a obtenu une rédemption éternelle. Et quatrième verbe dans ces mêmes versets, il est entré. Entré dans la gloire. Ce ciel qui jadis a été fermé sur lui, ce ciel maintenant est ouvert pour recevoir celui qui entre avec son propre sang. Venu, offert, s'est offert, il a obtenu, il est entré. Tout le chemin de l'humanité de Christ, dont la parole se plaît à rendre témoignage et dont Dieu lui-même veut entretenir nos cœurs. Avant, pendant le chemin de sa vie, le témoignage de Dieu s'est fait entendre pour le moins à deux reprises sous la forme la plus expressive, la plus éloquente. Et nous connaissons tous ces deux circonstances fort diverses, celle du Jourdain déjà évoquée dans ce chapitre premier de l'Évangile selon Jean, dont parle Jean le Baptiseur, lorsque le Seigneur remontant de l'eau, chapitre 3 de Matthieu par exemple, il nous a dit que les cieux lui furent ouverts, soulignons lui furent ouverts. C'est pour lui que le ciel s'ouvre, c'est à son égard que la voix de Dieu s'est fait entendre, pour déclarer le plaisir qu'il trouve en lui. Quel témoignage rendu par Dieu. Celui-ci, dit-il, il n'y en a pas d'autre, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. L'homme de mon conseil, ce seul homme qui me satisfait sur la terre, ce seul homme qui marche à la gloire de Dieu, en qui je trouve mon plaisir. Dieu ne permet pas qu'il soit confondu avec ceux qui avaient des motifs de se repentir en entrant dans les eaux du Jourdain du baptême pratiqué par Jean le Baptiseur. Il n'avait aucun motif de se repentir. Mais dans sa grâce, au début de son ministère, le Seigneur se range du côté de ceux qui se repentent, car c'est là le point où l'homme peut rencontrer son Sauveur. Et à ce moment-là, le ciel lui est ouvert. Et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Au chapitre 17 du même évangile, scène rapportée dans d'autres évangiles, la transfiguration, lorsque le Seigneur se trouve avec transfiguré en compagnie de deux illustres serviteurs, Moïse et Élie, le grand législateur et le grand prophète, lorsque Pierre, ne sachant que dire, fait la proposition que trois tentes soient bâties, Dieu ne permet pas que son Fils bien-aimé soit confondu avec les serviteurs les plus remarquables, appréciés de son cœur. À l'instant même, ils disparaissent, ils s'effacent, et ils ne virent plus que Jésus seul. Ils ne virent plus que Jésus seul. Le grand législateur n'est plus présent, le grand prophète non plus. Et la voix se fait à nouveau entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et il est ajouté, « Écoutez-le. » Vous n'avez pas écouté Moïse qui vous a donné la loi. Vous n'avez pas écouté Élie qui a parlé de ma part. Il vous reste une seule et dernière ressource. Écoutez mon Fils. Avant sa mort, le Seigneur est l'objet du témoignage rendu par Dieu lui-même. Nous connaissons bien ces paroles de l'évangile de Jean également. Lorsque, après avoir été exaucé dans sa prière au sujet de la résurrection de Lazare, le Seigneur arrivant au terme de son ministère peut le sceller lui-même et dire « Je t'ai glorifié, Père. Glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le Seigneur, comme Seigneur, peut sceller lui-même son témoignage, comme il a scellé lui-même son œuvre. Il scelle son témoignage. Il pouvait dire qu'il fait toujours les choses qui lui plaisent. Il pouvait nous annoncer son ministère en disant « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. » Et il peut sceller son ministère « Je t'ai glorifié. » Il scellera comme Fils de Dieu son œuvre, en disant lui-même, c'est accompli. Mais quelle est la réponse du Père à l'égard de ces paroles du Fils? Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. Témoignage rendu par Dieu lui-même à l'égard de son Fils bien-aimé, il l'a glorifié à la résurrection de Lazare. Il le glorifiera de nouveau. Il le ressuscitera par sa propre gloire. Après sa mort, Dieu donne encore de très nombreux témoignages. Il rend des témoignages de la plus haute éloquence au sujet de celui qu'il a pleinement satisfait par sa vie et qu'il a pleinement glorifié aussi bien par sa vie que dans sa mort. Et on peut dire que le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, de cette épître qui nous présente les cieux ouverts, est là pour nous donner le témoignage de Dieu à l'égard de son Fils bien-aimé. Et nous montre par les 7 citations de l'Ancien Testament que comporte ce premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, à quel point Dieu avait son Fils bien-aimé comme objet de ses pensées. Et cet Épître aux Hébreux, les cieux ouverts, est là pour placer devant nous de la part de Dieu la suprématie, la supériorité de celui qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Celui qui est plus excellent même, qui est devenu d'autant plus excellent que les anges. Il a toujours été plus excellent, mais par son humanité et par son œuvre, il est venu cela de plus excellent que ses créatures. Il est le plus excellent et chacun des chapitres de cet Épître aux Hébreux a pour thème la mise en évidence de la supériorité, de la primauté, de l'excellence de celui qui est l'objet des délices du Père. Témoignage rendu à l'égard du Seigneur par son Dieu et Père. S'il a dû l'abandonner aux heures de l'expiation, nous savons qu'il l'a ressuscité par sa propre gloire. Il l'a fait asseoir à sa droite. « Assieds-toi à ma droite. » Quelle place d'honneur! C'est là que le regard de nos cœurs le considère glorifié, l'homme glorifié, assis à la droite de la majesté, garant de cette rédemption éternelle obtenue. Et Dieu peut lui dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. C'est ce que Dieu fait pour son Fils. Il est très beau de voir dans l'Écriture, d'une part, ce que le Seigneur fait pour son Dieu et ce que Dieu fait pour son Fils. Il le met aux honneurs, il l'a haut élevé, peut nous dire Paul écrivant aux Philippiens. Celui qui s'est abaissé lui-même, Dieu l'a haut élevé. Le Seigneur s'est abaissé lui-même, personne ne pouvait l'abaisser. Il n'est jamais dit que Dieu a abaissé son Fils. Il s'est abaissé, c'est un acte de puissance, c'est un acte volontaire. Il s'est abaissé lui-même, Dieu l'a haut élevé. Et quel que soit l'abaissement, l'humiliation de laquelle le Seigneur a été l'objet, et il y a été sensible, puisqu'il peut dire par l'esprit prophétique, l'opprobre m'a brisé le cœur, Dieu a toujours revendiqué la gloire et la supériorité et le plaisir qu'il trouve dans l'homme de son conseil. C'est à lui qu'il remettra le jugement, il a remis tout jugement au Fils. C'est à son Fils qu'il remet toute gloire et tout honneur. Et c'est là que nos cœurs le considèrent maintenant, assis à ta droite, à la droite du Père. D'une part, le Père lui dit, assieds-toi à ma droite. C'est l'invitation de celui qui l'accueille au jour de son élévation, lorsque le Seigneur entre victorieux et garant de cette rédemption acquise, porteur de son propre sang. Dieu le salue. Il l'accueille dans le ciel qui s'ouvre maintenant, ce ciel qui était fermé sur lui aux heures où il était fait péché, mais qui s'ouvre maintenant au jour de son élévation et Dieu le salue, souverain sacrificateur pour l'éternité. Quel témoignage rendu par Dieu lui-même à l'égard de son Fils bien-aimé. Il y a sans doute de nombreuses citations qui ne nous viennent pas à l'esprit, mais qui témoignent de cette appréciation qu'a Dieu à l'égard de son Fils. Que telle soit, que la conséquence de telle considération, de ces choses combien précieuses et excellentes que nous traduisent l'Écriture et des effets dans nos cœurs, et qu'il en résulte en chacun de nous, qui par la grâce de Dieu nous aimons à le penser, sommes des enfants de Dieu, ceux qui sont unis à Christ, rendus agréables dans le bien-aimé, que de telles déclarations, de telles réalités et du témoignage de Christ, et du témoignage de Dieu à l'égard de son Fils bien-aimé, fasse grandir dans nos affections l'appréciation que nous avons de sa personne. Dans l'attente du jour où nous en aurons fini avec les limites qui sont les nôtres actuellement, où nous serons rassasiés de son image, où nous le verrons comme il est et où nous lui adresserons une glorieuse et éternelle adoration.